At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
I read Stan. Will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Je pense qu'on ne va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs bien sûr. L'after à la radio sur RMC, l'after à la télé sur RMC Sport News, l'after l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. On a un programme incroyable ce soir. Restez bien avec nous jusqu'à minuit. Le programme, le voici, le voilà. Mais d'abord, qui est là ce soir? Daniel Riolo bien sûr. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'événement, messieurs, ce soir dans l'after, c'est la présence parmi nous du boss. Bah oui, c'est lui qui organise tout. Quoi, hein. Didier Quillot est avec nous, DG de la Ligue. Non, mais c'est la Ligue qui organise notre Ligue 1 quand même, et notre Ligue 2, notre foot professionnel.
Je ne sais pas si à la Ligue des gens l'appellent boss, ou pas, c'est le boss.
Didier, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Et merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Alors, on a beaucoup parlé de la Ligue, de vous, des pelouses, des droits, enfin de plein de sujets ces derniers jours. Donc, on est ravis que vous soyez parmi nous.
J'ai pas l'habitude de me débiner, cher Gilbert.
On voit ça.
Mais il n'a jamais été dans notre intention de le penser.
Non, mais c'est bien. Mais des fois, les prises de position de l'after sont, comment dirais-je, un peu sanglantes. Donc, il faut pouvoir...
trancher. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut venir pour répondre.
Exactement. Et on va en débattre tous ensemble au 32-16, bien sûr, avec Didier Quillot. Ensuite, à 22h, on parlera arbitrage. Bruno Derrien nous rejoindra. Le but de Slimani dimanche soir était-il valable? Vous saurez tout. Faut-il introduire un but de pénalité? C'est Tony Chaperon qui a inventé ça. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure.
Hein
avec,
entendu,
tu ne rêves pas.
Hier soir.
Mais je voulais lui laisser la surprise. Donc, je te laisse la surprise tout à l'heure.
Parce que c'est pas mal.
Et puis, à 22h45, on aura avec nous Jean-Marc Lenné. Alors, Jean-Marc Lenné est commissaire priseur. C'est le spécialiste en France des objets de sport, de foot, des maillots, tout ça. Il avait organisé une vente il y a quelques mois.
Ah, c'est lui qu'on avait repris avec le troisième maillot.
Il avait vendu le maillot de Jérôme Bretagne au même prix que celui de Tai Teo, ce qui avait grandement vexé
oui.
Jérôme.
Non, mais sauf que, pourquoi?
Mais justement, tu vas savoir pourquoi.
Bah, tu vas savoir pourquoi.
Mais non, pourquoi tu vaux autant que Tai Teo?
Mais non, parce que c'est pas un maillot porté. Donc un maillot porté, forcément, ça vaut un peu plus que Taïwo quand même s'il n'est pas porté. Mais ça ne vaut pas...
En tout cas, vous rentrez dans les coulisses de ce business assez impressionnant, donc des objets de foot tout à l'heure en fin d'after.
Ce qui m'intéresse presque plus, c'est de savoir qui les achète. Bah, qui sont les collectionneurs prêts à mettre beaucoup d'argent?
À part la famille Nicolas?
Non, pour avoir des maillots portés ou pas portés.
T'en as beaucoup, hein, Daniel.
Oui, mais j'aimerais savoir quel est le profil sociologique des gens qui sont intéressés par ce genre de...
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de profil.
Il y aura toute l'actu Mercato également tout à l'heure aux alentours de 22h30. Julien Cazard à 23h, évidemment. Laure Le Payeur aussi, dont on rejoindra tout à l'heure à 22h.
Ah, alors, on ne l'a pas vu en 2020, Laure. Hein.
Bah alors, c'est, ouais, elle revient.
Voilà, c'est chaleureusement.
Et puis le quiz tout à l'heure, 23h40, évidemment, pour voir si une nouvelle fois vous êtes capable de me battre. Messieurs, mais attaquons tout de suite avec Didier Quillot. Didier, comment est-ce possible d'avoir des pelouses aussi pourries à Reims et à Rennes, puisque ce sont les deux dernières qu'on ait vues là, ces derniers jours?
Alors, toujours le sens de la mesure, Gilbert. Donc, effectivement, donc, le championnat des pelouses, il existe. Donc, la Ligue organise le championnat des pelouses depuis maintenant quelques années. Et je pense que c'est pas Jérôme qui me démentira, lui qui jouait au foot il y a maintenant quelques années sur des pelouses de Ligue 1. Elles ont progressé. On va parler de Reims et de Rennes, hein. Je vais pas me défausser. On va parler de Reims et de Rennes. Mais les pelouses ont progressé. Vous savez qu'elles sont notées après chaque match par les joueurs, par les entraîneurs, par les arbitres, par le réalisateur, que si les pelouses sont mal notées, les clubs sont sanctionnés. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, le club de Rennes sera auditionné par la commission des compétitions. Donc, et on va étudier exactement...
Sanctions financières.
Effectivement, les auditions peuvent donner lieu à des sanctions financières. Ça a été le cas cette année avec Ajaccio, le club de Ligue 2,
à quelle hauteur
qui a été sanctionné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est, alors on peut juger de la valeur du montant, mais en tout cas il y a des sanctions financières, on ne reste pas sans rien faire. Donc les pelouses ont progressé, il y a 45% des pelouses qui augmentent leur note moyenne donc tous les ans. Il y a pas que le billard du Paris Saint-Germain, vous avez des très belles pelouses cette année à Amiens, à Brest, à Toulouse, dans des clubs où effectivement les jardiniers, c'est le cas de le dire, ont bossé. Maintenant sur Reims et Rennes, le problème a été parfaitement identifié. Donc à Reims, donc vous savez que Reims a accueilli la Coupe du monde féminine entre le 8 mai, entre le 8 juin et le 29 juin.
On en a parlé hier, donc l'excuse on nous l'a bien vendue. Ouais.
Voilà, ben, donc l'excuse c'est malheureusement la vérité, cher Daniel. Donc vous savez que une pelouse à la fin de la saison, il faut faire ce qu'on appelle le scalpage, c'est-à-dire on laboure le premier niveau de la pelouse et ensuite le semi, et que pour faire ça, il faut 8 à 10 semaines et que le club de Reims n'a pas eu le temps de faire ça. Idem à Rennes. Croyez-vous sérieusement que Olivier Létang, qui a travaillé au PSG, qui est celui qui a fait venir Calderwood au Parc des Princes et au PSG, croyez-vous sincèrement que Olivier Létang est ravi de la pelouse qu'il a à Rennes? J'étais moi-même à Rennes pour le match Rennes-Marseille vendredi. Olivier est désolé. Il n'a pas eu cette année le temps de replanter
c'est bidon,
sa pelouse.
C'est bidon.
Mais non, Daniel, c'est pas archi bidon. On aurait dû faire venir des experts en pelouse ce soir ici. C'est pas bidon. Il faut 8 à 10 semaines.
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est bidon. Ok, je vais essayer en tout cas. Est-ce que, oui ou non, vous trouvez que le quart de finale de Coupe de la Ligue Reims-Strasbourg se dispute dans des conditions de terrain catastrophiques?
La pelouse du Stade de l'Aune pour le quart de finale n'était pas bonne, loin de là, en effet.
Rennes-Marseille, choc de la dernière journée de championnat, se déroule-t-il dans des conditions normales au niveau du terrain?
Bien sûr, on est pas d'accord. La pelouse n'était pas bonne, on est tout à fait d'accord.
D'accord.
La pelouse du Roazhon Park n'était pas bonne vendredi soir.
Est-ce que vous pensez pas que plutôt que de faire, vous allez malheureusement les faire parce qu'il faut les faire, les réunions pour sanctionner ou faire le championnat des pelouses et tout, il serait plus normal que les présidents de Ligue 1 derrière vous, parce que je sais que vous pensez que c'est normal, puisque vous faites en sorte de faire un bel emballage de la Ligue 1 et de la vente chère et vous êtes parvenu à vos fins et vous avez parfaitement accompli votre mission, qu'il serait pas normal que sans sanction, sans discussion préalable, ces gens-là aient conscience qu'on n'a pas le droit de proposer un tel terrain, d'offrir un tel spectacle aux gens qui payent un abonnement à la télé pour regarder les matchs. Qu'ils n'ont pas le droit, par rapport à un diffuseur qui donne beaucoup d'argent, de ne pas faire l'effort. L'excuse avancée de la Coupe du Monde féminine, pourquoi c'est bidon? Parce que si on est un club professionnel, si on est une ligue professionnelle, eh bien on anticipe et on dit « ça n'est pas possible, messieurs, ça n'est pas possible ». Par anticipation, on doit dire « moi, je veux bien que les filles viennent jouer la Coupe du Monde là, mais il n'est pas envisageable que pendant une année, j'ai un terrain de merde. Parce que ça n'est pas professionnel. Ça ne serait pas accepté dans les autres pays. Ça ne serait pas accepté. Ou si c'est accepté par d'autres pays, c'est des pays qui, d'un point de vue du professionnalisme, année, Daniel, hein, seraient aussi nuls que nous.
Non, mais Daniel, c'est pas une année.
Daniel,
c'est
une conclusion sur les pelouses.
Non, je vais évidemment répondre. Daniel, vous êtes excessif.
Non.
La pelouse de Reims n'a pas été dans cet état la première partie de la saison, premièrement. Dans d'autres pays, en Allemagne, il y a deux ans, quand il y a eu le fameux champignon, souvenez-vous, toutes les pelouses, la pelouse de l'Arena du Bayern de Munich a été bouffée par le champignon, comme la pelouse de Montpellier. Donc c'est un grand club, un
donc
club plus petit.
Donc on pointe du doigt les erreurs.
Non, je suis en train de corriger ce que vous dites. Il y a des pays où effectivement les pelouses ont souffert aussi il y a deux ans. Même la pelouse du Bayern de Munich est un des plus grands clubs du monde. Je reviens sur Reims et Rennes. Je répète, c'est une explication strictement technique. Il faut qu'une pelouse se repose 8 à 10 semaines. Il faut qu'on puisse le temps de la scalper, de la ressemer, de la replanter.
Mais dans ces cas-là, on n'accepte pas que les filles viennent jouer. Alors, là, si pendant un an derrière, on est sûr d'avoir un terrain pourri.
Je pense que tout le monde avait envie. Je pense que la France, le pays, avait dans sa globalité envie de la Coupe du Monde. La Fédé a fait un travail formidable pour que la FIFA nous donne cette Coupe du Monde à organiser. Il y a deux clubs, en effet, qui aujourd'hui souffrent avec ça.
On a joué à Lyon aussi, ça n'a pas foutu le même bordel.
Au Parc des Princes, ils avaient replanté avant, et à Lyon aussi, ils avaient replanté avant.
Ah, donc ils ont bien joué, donc ils ont été plus intelligents.
Ils ont mieux géré, effectivement, cette période intermédiaire de cet été.
Bah, ça s'appelle du professionnalisme, donc c'est ce que je dis.
Après, on ne va pas comparer.
Après, moi, je trouve tout à fait normal qu'il y ait des sanctions. Hein. Il y aura des sanctions sans doute.
Oui, mais je vous trouve particulièrement injuste. Je pense que les pelouses ont énormément progressé. tout le monde est convaincu. Je pense que.
Non, mais moi, je suis d'accord là-dessus. Hein.
Faire un procès à la Ligue et au club sur le manque de professionnalisme, c'est très injuste.
Non, je ne fais tout pas un procès à la Ligue, compris. Je fais un procès au président qui devrait, sans avoir peur des sanctions.
Non, toi, tu reproches l'anticipation.
Mais je suis là, Daniel, pour les défendre. Tout le monde a envie. Vous savez, quand on regarde un spectacle à la télé, avant que les joueurs rentrent sur le terrain, il y a deux choses qu'on regarde, c'est la pelouse et c'est le taux de remplissage de la tribune face caméra. Voilà, parce que ce sont les deux éléments de packaging, comme vous disiez tout à l'heure, donc de contenant du produit. Et ensuite, il faut qu'il y ait du beau jeu. Peut-être on va en parler d'ailleurs.
Ça, mais donc tout le monde, je vais pas vous demander du beau jeu, ça n'est pas de votre ressort.
Tout le monde est sensible à la qualité des pelouses, des progrès ont été faits. Franchement, il n'y a pas qu'au Parc des Princes qu'il y a une bonne pelouse, allez à Amiens, allez à Brest, aller à Metz, aller à Toulouse.
Donc c'est pas une affaire de moyens. Puisque non, même des petits clubs sans argent réussissent.
C'est une affaire de management de la période d'été pendant laquelle il y a des
professionnalisme.
Dossier pelouse clos. Voilà. Après, moi, je pense quand même que vu comme on regarde aussi les championnats étrangers, on voit qu'en Angleterre, bon, bah voilà, c'est top. En Allemagne, en Espagne. Terminé sur les pelouses, s'il te plaît, Daniel. Terminé sur les pelouses.
Nous, un match est pourri, c'est d'aller voir s'il n'y a pas un match pourri ailleurs. Ou est-ce que le but, notre
c'est
but,
de regarder
c'est de
déjà nous chez nous.
On a compris.
En sorte que on avance.
Dossier suivant. On n'a pas d'idée avec nous pendant 3 heures, donc il faut être efficace. Dossier droit télé. Alors il y a un contrat extraordinaire qui a été signé avec Mediapro. Tout le foot français s'en est félicité. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours aussi confiant sur la suite avec Mediapro? On est mi-janvier. Pour l'instant ils sont censés démarrer à l'été. Et pour l'instant, enfin, alors on n'est pas au courant de tout, hein. Mais pour l'instant il n'y a pas de chaîne mise en place, studio, rédaction, voilà. Et il n'y a pas encore de carton effectivement. Et après les cartons, faudra les mettre quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui la Ligue est inquiète ou pas?
Non, pas du tout. Donc, d'abord deux choses. Ce qui s'est passé au mois de décembre, je vais revenir sur Mediapro évidemment, mais je voudrais d'abord saluer ce qui s'est passé au mois de décembre avec les accords qui ont été passés par Canal+ et par beIN, qui ont maintenant le mérite de la clarification. Pour la Ligue 1, à partir du mois de août prochain, il y aura deux offres. Il y aura l'offre Canal+ d'une part, la chaîne Canal+, et puis la chaîne Mediapro. Ça a le mérite pour le téléspectateur de la clarification, de la simplification, et y compris pour les distributeurs qui maintenant vont devoir distribuer deux chaînes. Voilà, ça c'est le premier point. Je dirais, je raisonne là d'un point de vue industriel. Maintenant, d'un point de vue Ligue, dont Mediapro fera sa chaîne. Donc il y aura une chaîne Mediapro.
Certitude à 100%.
Bien sûr,
il y aura totalement indépendante d'un autre diffuseur ou d'un accord éventuel avec d'autres partenaires.
Alors
ça on peut pas le savoir.
Ça d'abord je ne le sais pas et même si je le savais je le dirais pas.
Mais vous avez le droit
aujourd'hui.
De le dire, mais c'est pour savoir.
Aujourd'hui il y a Canal+ qui a un accord de distribution avec beIN. Il y a Mediapro qui, je pense que Germain Ruirès l'a dit, a discuté avec Canal Satellite, a discuté avec cette maison qui nous abrite ce soir. Donc tout le monde discute avec tout le monde. Moi, j'avais moi-même dit, il y a plusieurs mois, que le marché français à quatre acteurs, c'était trop et qu'il y aurait une consolidation. Cette consolidation est en marche. Il y a d'un côté Canal+ et beIN, et puis de l'autre côté, il y a pour l'instant Mediapro. Mediapro aura une chaîne, il aura des accords de distribution. Peut-être que ça va prendre du temps pour signer des accords de distribution parce que c'est la loi des affaires. Il y a effectivement une histoire de rapport de force à gérer entre deux acteurs qui, de toute façon, sont condamnés à s'entendre. Mediapro a 85% des matchs de Ligue 1 à partir du mois d'août avec le top 10, toutes les affiches, le match du dimanche soir, le match du vendredi soir, le match du samedi 17h.
Didier Quillot, 25 euros.
Je termine donc. Mediapro aura 85% des matchs, 85% des matchs, tous les top 10, le dimanche soir, le samedi 17h, le vendredi.
Donc c'est une belle offre, je voulais dire.
Je pense que c'est une
25
offre.
25 euros, c'est un prix raisonnable pour tout ça.
Vous voulez vous convaincre vous-même ou vous voulez
convaincre nous? Non, mais c'est pas à la Ligue qui... Non, mais c'est le marché qui parlera, Daniel. C'est le marché qui parlera. Ce week-end, il y a 2 800 000 personnes qui ont regardé les matchs de vendredi, samedi 17h30. Et dimanche
ils
soir,
ont déjà un abonnement, ces gens-là.
Bien sûr.
Ils ont un paquet. Soit ils ont beIN et Canal, ils ont ils ont d'autres champions. Ils ont une offre football, on va dire. Et dans l'offre football, il y a la Ligue 1.
Peut-être qu'il y aura une offre football. Peut-être qu'il y aura un accord entre Mediapro et Canal Sat. Et voilà. Qu'il y aura une offre football dans Canal Sat. Oui, mais... Peut-être qu'il y aura un accord avec SFR.
Non, mais hypothèse,
qu'il y aura un accord avec Orange.
Hypothèse, Mediapro lance sa chaîne à 20 balles avec juste l'offre.
Non, mais Mediapro. Non, mais Mediapro ne sera pas.
On court à la Qatar.
Mais Mediapro ne sera pas tout seul parce que Canal Sat, Orange, SFR, Bouygues et Free ont besoin dans leur box pour les opérateurs ADSL d'avoir des contenus sportifs.
Sauf qu'il faut rajouter 25 balles.
Sauf qu'il faudra rajouter un prix qu'ils négocieront entre eux. Il faut faire confiance au marché aussi. Donc c'est pas à nous, ni à vous, ni à moi de fixer le prix. Le prix qui est celui.
Moi, je veux bien le fixer.
Le prix qui est fixé, ce sera l'accord entre 85% des matchs de Ligue 1.
10 euros.
Non, mais aujourd'hui, l'abonnement à Canal+, c'est pas à 10 euros, hein. L'abonnement à Canal+, c'est pas à 10 euros, il y a trois matchs.
Oui, mais si je prends Canal, j'ai des séries, j'ai des films, j'ai des affiches désormais de Ligue des Champions.
Oui,
l'accord avec RMC Canal leur permet d'avoir la première ligue. Il y a une offre globale, on achète. Là, le truc, c'est qu'on va, on nous demande de nous abonner à une chaîne qui n'aura que
la
seul
Ligue 1
produit,
et la Ligue 2.
La Ligue 1.
Attends, on ne sait pas. Tu sais, il peut se passer encore des choses sur des rachats de droits par ailleurs.
Il y aura 85% des matchs de Ligue 1. Je répète que ce week-end, il y a 2 800 000 personnes qui ont regardé trois matchs.
Mais ça, ça ne veut pas dire que les mecs vont faire la démarche d'aller prendre un abonnement à 20 balles.
Non, mais le match PSG Monaco, ils vont le voir où? Ils vont le voir chez Mediapro, puisque c'est lui qui aura le match
le
dimanche
PSG Monaco.
Bien sûr, le PSG
en fait,
OM.
Si on calcule bien, il y a une. Alors, on va prenons l'exemple du supporter du PSG. Il y a, c'est combien? C'est 10 matchs qu'il ne peut. S'il n'a pas Mediapro, il en rate 10. Non, il en rate.
Non, il va rater. Les choix de programmation entre diffuseurs, ils vont se faire en fil de l'eau.
Il va au café du coin, il va chez un. Il prend pas l'abonnement juste pour ça. Il prendra pas l'abonnement.
Aujourd'hui, la question du piratage est un problème pour la Ligue. Il y a de plus en plus de piratage.
La question du piratage est un problème pour tous les ayants droit à la Ligue et aussi pour tous les diffuseurs. Elle est un problème. C'est pour moi le piratage. Je pèse mes mots. C'est le cancer de l'industrie audiovisuelle pour les ayants droit sportifs. Et nous pensons tous la même chose au sein de l'association que nous avons créée, les diffuseurs et les ayants droit. Dieu merci. Donc le gouvernement pense la même chose. Il y a une loi qui va arriver à l'Assemblée nationale, j'espère avant les municipales, qui sera votée avant l'été, une loi sur l'audiovisuel en France, dans laquelle il y a deux articles qui concernent le piratage audiovisuel. Donc dès l'instant où cette loi sera votée, les ayants droit, donc la Ligue, pourront saisir un juge qui lui pourra donc faire fermer chez les FAI les sites pirates. Donc comme ça se fait en Angleterre, comme ça se fait au Portugal, il y a deux pays aujourd'hui où il y a ce qu'on appelle une ordonnance dynamique qui est donnée au juge.
Ça pourrait être la fin des sites de streaming et des boîtiers pirates.
J'espère que ça sera la fin des sites de streaming, la fin des sites pirates. Le juge aura le juge aura dorénavant le pouvoir législatif, donc via une ordonnance, de faire fermer des sites de streaming illégaux.
Ça, c'est un élément capital pour vous.
Ça, c'est un élément capital. Il y a aujourd'hui, selon les chiffres en particulier que Canal+ et que Maxime Sada ont donné il y a quelques mois, plusieurs centaines de milliers de pirates, donc qui regardent, qui consomment du football sans payer. Il faut que ça s'arrête et ça s'arrêtera dès que cette loi va être votée avant l'été.
Évidemment, on ne peut être que de votre côté sur ce dossier-là. Oui, il faut que ça s'arrête parce que ça fait du mal aux diffuseurs, mais en même temps, on est bien obligé d'entendre aussi ceux qui disent que le football, dans cette bulle spéculative, coûte beaucoup trop cher et que les abonnements qui s'empilent les uns derrière les autres, ça va nous donner quoi, une somme entre 70 et 100 euros si on veut tout avoir.
Vous savez combien paye.
Après, il faut faire des choix. Non, mais à chaque fois que je vais dire un truc, vous allez dire, vous savez combien ils font en Angleterre, vous savez comment ils font là.
Bah non, mais c'est important de comparer.
Mais en Angleterre, c'est trop fort. Du marché français avec nos consommateurs français.
Pourquoi les consommateurs français seraient à ce point différents des consommateurs espagnols qui payent 65 euros, des consommateurs anglais qui payent 79 euros à Sky et à BT? Donc pourquoi
les Français font 42 jours de grève dans la rue en tous les samedis. On n'a pas toujours les mêmes réactions selon les pays. Tous les pays ont des réactions et des cultures différentes.
Qu'il y ait une particularité française, je ne l'ignore pas. Je dis simplement qu'il y aura deux offres la saison prochaine, Canal+ et Mediapro, qui seront toutes les deux distribuées par des opérateurs télécoms ou satellite, et qu'il y aura des consommateurs qui achèteront ces deux offres. Surtout si elles sont packagées entre elles.
Vous semblez tous oublier que le consommateur espagnol, la Liga, c'est coûte que coûte. Le consommateur français, c'est pas forcément le cas.
Dans quelques instants, on prendra les dossiers suivants. On va parler du VAR, on va parler de la Coupe de la Ligue, dossier récurrent dans l'after, des problèmes de tribune.
On est le seul pays où
également.
On paye les droits étrangers aussi cher, la Ligue des Champions aussi cher. On est le pays qui payons le plus cher la Ligue des Champions. Les autres pays payent pas autant. L'Angleterre.
C'est pas pour des raisons objectives. C'est pour des raisons de valeur stratégique du produit. Lorsque votre maison mère est rentrée.
Parce qu'on veut offrir plus parce que
non. Lorsque votre maison mère a racheté les droits de la Champions League, 350 millions d'euros, c'était stratégique pour faire des abonnements à SFR. Lorsque Canal+ et Bein viennent de mettre le montant qu'ils ont mis dernièrement, c'est dans ce qu'on appelle une valeur stratégique défensive, donc c'est pas une valeur objective. C'est ça qu'il faut dire.
On parlera également de la Ligue 3 professionnelle éventuelle. Et puis on entendra Thomas Tourelle. Il en a marre des matchs à 21h, Thomas Tourelle. Oui, il va rester au mode allemand, Thomas Tourelle. On aura bien sûr la Didier Kio là-dessus dans quelques minutes. On ne bouge pas. Et le 32-16 est ouvert. Si vous voulez réagir à tous nos sujets, n'hésitez pas à appeler nous. A tout de suite dans l'After.
RMC, 21h30. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Daniel Riolo et Jérôme Rantaine. Eh oui, les deux têtes d'affiche de l'afterfoot, évidemment, tous les soirs en compagnie de Didier Quillot.
Ça, parce qu'on vient d'avoir une discussion en privé, en fait, et donc c'est pour prévenir les auditeurs, quand même, qu'ils se sont obligés de dire les deux têtes d'affiche Riolo, Rantaine. Non, les deux têtes d'affiche.
On a eu nos sondages ce matin.
Et Riolo, et nous, on est des pièces à rapprocher. Je dis nous, parce que je suis pas le seul.
Mais. On a eu nos chiffres d'audience ce matin, et grâce aux têtes d'affiche de l'After que vous êtes, voilà. RMC, la première radio de France de 21h à minuit tous les soirs.
Grâce à vous deux, bravo.
C'est aussi un peu toi, Jérôme.
Oui, un tout petit peu.
C'est sa petite boudeuse.
C'est toi, Jérôme, mais t'as raison de faire ta chouineuse, mais nous, non, on n'a pas fait l'affiche de la promo, nous on est désolés.
Un jour, vous allez être deux. Voilà. Et puis, la chaise va être vide, donc il va falloir la remplacer.
Tu savais.
Ah oui. Oh bah non, mais
Didier Quillot, perdons pas de temps. Didier Quillot est avec nous, on a la chance de l'avoir, donc profitons-en. Sujet brûlant pour les présidents de Ligue 1, pour les entraîneurs de Ligue 1, pour certains joueurs aussi, et pour nous dans l'after, la Coupe de la Ligue. Parce que depuis quelques jours, finalement, dès qu'on entend un président de Ligue 1, on lui pose la question, et il n'y en a aucun. Tous disent, non, nous, on aurait voulu la garder.
Ils étaient pour.
On ne sait pas ce qui s'est passé, on a voté, bref. Donc on a un peu quand même creusé, on sait qu'il y a eu le conseil d'administration, l'Assemblée Générale, etc. Aujourd'hui, est-ce que la Coupe de la Ligue est réellement en stand-by?
Selon nous, on a dit qu'elle était suspendue.
Ou est-ce qu'elle est définitivement enterrée?
Alors, il y a eu un vote du conseil d'administration, puis de l'Assemblée Générale, donc qui a voté à la majorité, de mémoire 66%, la suspension de la Coupe de la Ligue.
Suspension. Okay. Mais suspension sur combien de temps? Est-ce qu'il y a une durée qui est précisée?
Il n'y a pas de durée qui a été précisée. Donc ça veut dire que la Coupe de la Ligue, elle est suspendue. Arrêtée, elle n'aura pas lieu la saison prochaine et je ne pense pas qu'elle aura lieu la saison d'après non plus. Il a été décidé à l'Assemblée Générale de créer un groupe de travail sur l'attractivité de nos compétitions au sens large. Donc c'est d'ailleurs Thierry Gomez, le président du Mans, qui a fait cette demande lors de l'Assemblée Générale.
On l'a reçu il n'y a pas longtemps, il a plein d'idées.
L'attractivité de nos compétitions?
Y compris.
Mais pas la Ligue 1.
Y compris l'attractivité. Si.
Tout est lié pour Gomez.
Ça marche du tonnerre. Non, mais on est que les pelouses sont super. Il y a 2 millions, je ne sais pas combien de gens pour regarder ce week-end et tout est génial.
J'ai pas dit ça.
Il n'y a pas besoin de bosser sur l'attractivité, je comprends pas.
Non, mais cela dit, rappelle-toi, Thierry Gomez est venu, il était là, assis à côté de toi. Très franchement, son plan.
Il
moi j'adore
l'idée.
La Coupe de la Ligue, vos plans, elle est suspendue. Dont la réponse à votre
donc
question.
Pour 2 ans minimum.
Elle est suspendue et on va réfléchir à si on la réactive ou pas. Pour l'instant, c'est pas prévu.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, c'est une suggestion que l'After fait, la donner à un diffuseur, puisqu'il y avait un problème le problème initial, c'est ça, c'est le problème du diffuseur. La donner pour que le foot ait de la visibilité. Il y a très peu de foot gratuit aujourd'hui.
Je crois qu'il y a deux sujets, il y a deux à trois sujets sur la Coupe de la Ligue. Premièrement, il y a en effet celui du diffuseur. On a fait un appel d'offres, ensuite des discussions de gré à gré, et il n'y a pas un seul diffuseur qui a fait une offre sur la Coupe de la Ligue.
C'est peut-être trop cher.
Après, non, c'était pas trop cher. C'était.
Passé en gré à gré après.
On n'a pas reçu d'offres. C'est-à-dire, on n'a pas reçu d'offres. Il n'y a pas de diffuseur qui a dit. Pas un seul diffuseur qui a dit ça m'intéresse, même donné. Ok, c'est le premier point.
Donc, et donc on a même donné.
Non, mais nous, notre responsabilité, c'est.
Vous ne voulez pas proposer gratuite quand même.
Non, on a dit faites-nous une offre, quel que soit le prix, et on étudiera les offres, et on n'a pas reçu d'offre.
Donc c'est inquiétant ça.
Premièrement.
Bah, erreur des diffuseurs, pardon.
Deuxièmement.
Excusez-moi de trouver ça inquiétant.
Mais ah oui, c'est très
deuxièmement,
inquiétant.
Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la loi du marché. Hein. Deuxièmement. Force est de constater que les affluences de la Coupe de la Ligue ne sont pas vraiment au rendez-vous.
La Coupe de France, c'est pareil.
Elle se joue en milieu de semaine, le décembre et janvier où il fait froid, et les stades ne sont pas très pleins.
Ils sont vides.
Troisièmement, les entraîneurs mettent souvent une équipe B. Et quatrièmement, les clubs qui sont européens avaient besoin de dates. Donc quand vous additionnez tous ces critères qui sont parfaitement objectifs
sur
plateau même, je me souviens il y a quelques années, vous gueuliez parce que les stades étaient vides sur la Coupe de la Ligue et parce que c'était au mois de décembre et que les mecs faisaient jouer l'équipe B et que les joueurs jouaient pas le jeu, etc. Donc tous ces arguments qu'on a entendus, que vous prononciez vous-même il y a quelques années, vous les additionnez et ça fait que la décision est prise et objectivement c'est une décision que qui est celle-ci, voilà, et qui est celle-ci.
Vous personnellement, vous regrettez ?
Non, moi j'aurais voulu qu'on consulte marché une dernière fois pour voir effectivement si vraiment il n'y avait pas un diffuseur qui voulait qui voulait faire une offre. Mais quand on additionne les quatre raisons que je viens d'évoquer, a été soumis au vote le fait de poursuivre ou non. Et c'est la décision
de nos dirigeants. Ils sont schizo, alors, parce que il dit d'un côté non, mais, ils en veulent pas, et de l'autre côté ils n'arrêtent pas de dire on comprend pas.
Vous avez certainement interrogé des dirigeants.
On a eu les minoritaires
qui avaient voté pour le maintien.
On est tombé que sur les minoritaires.
Excusez-moi, Didier Guillaume, je veux pas vous embêter avec ça, mais quand même un petit peu, le fait qu'il n'y ait pas un diffuseur pour cette Coupe de la Ligue, pour des raisons que je peux comprendre, vous les avez évoquées, elles sont tout à fait recevables. C'est quand même pas un indicateur sur, on parle de loi du marché, d'offre et demande, sur ce qu'est la demande football. Il y a pas un problème là, quand même.
Daniel, pardon. C'est un indicateur que la Coupe de la Ligue n'a pas rencontré son marché en termes de diffuseurs, parce que la Ligue 1, elle a rencontré son marché, 1,2 milliard. La Champions League, elle a rencontré son marché, 375 millions en France. Donc Canal+ va remettre, donc entre la Ligue 1 plus la Champions League, près de entre 800 et 900 millions d'euros par an à partir de la saison prochaine. Mediapro va mettre 800 millions d'euros. Free a acheté le New York Live, le Losis de notre Ligue 1 pour 50 millions d'euros. C'est la Coupe de la Ligue qui est une compétition.
J'ai mis une petite réserve. On ne sait pas encore si la Ligue 1 a rencontré son marché, parce que c'est un marché nouveau qui va lui être proposé avec un nouveau mode de consommation. On n'est pas encore persuadé, je l'espère, parce qu'il en va dans l'intérêt de nous tous, que le public soit au rendez-vous.
Elle a rencontré son marché dans le sens que l'opérateur a mis beaucoup d'argent,
c'est-à-dire celui qui a mis l'argent.
Eh ben oui,
maintenant en face, il faut la rentabilité, sinon le marché se casse la gueule.
Non mais Daniel,
les gens sont complètement idiots quand même.
Ça s'est jamais vu un diffuseur qui se casse la gueule.
Daniel,
qu'il fait face à une fausse rentabilité.
Daniel, si vous mettez sur le bon coin trois voitures, d'accord, et qu'il y a des offres pour deux voitures et qu'il n'y a pas d'offre pour la troisième voiture, ça veut dire que les acheteurs, ils préfèrent les deux premières.
Et ben exactement.
Ouais. Voilà. Et j'espère que l'acheteur sera là.
Non, mais là, bien sûr qu'il sera là, l'acheteur. Il est fait 7 000 personnes.
Je me félicite de votre confiance. J'aimerais juste pouvoir en partager.
Non, mais nous, on dit ça parce que l'acheteur, pour l'instant, il n'a pas encore donné l'oseille pour parler crûment.
Et il n'a pas proposé le produit encore.
Voilà, c'est pour ça qu'on se questionne un petit peu.
Et il n'est pas prêt, il n'y a pas de locaux, il n'y a personne encore.
Non, mais je pense que vous faites un procès d'intention. Enfin, on peut refaire le débat jusqu'à minuit sur le fait que le marché français est en train de se consolider, qu'il y a une alliance entre Canal+ et beIN, que par ailleurs,
il y a des discussions derrière.
Que Mediapro va avoir, je le répète, 85% des matchs, le top 10, le magazine du dimanche soir, tous les PSG-OM, tous les Olympicos, et donc que je ne crois pas un seul instant qu'il n'y aura pas un seul Français qui n'aura pas envie de s'abonner pour voir PSG-OM et OM Marseille et Saint-Etienne-Lyon.
Il en faut 3,5 millions.
Aujourd'hui, après quelques mois maintenant d'introduction de la VAR dans le football français, est-ce que vous êtes convaincu à la Ligue par son utilisation, ou est-ce que, comme Seferin par exemple, président de l'UEFA, vous avez quand même quelques doutes sur certaines situations? Bon, on va pas refaire la position de l'acteur, vous la connaissez.
Comme les Anglais aussi, de plus en plus.
Je suis convaincu qu'on ne reviendra pas en arrière, ni l'UEFA, ni les Anglais, ni en France, que c'est de l'innovation technologique qui va dans le sens de l'aide à l'arbitrage. Donc je suis convaincu qu'on ne reviendra pas en arrière, point 1. Point 2, la VAR corrige 75% des erreurs en arbitrage, reste encore 25% à corriger. Et point 3, en effet, il faut que nos arbitres travaillent encore davantage pour deux choses. Un, que le temps que l'on met à consulter la VAR soit raccourci. Voilà. Petit 1. Ouais. Et petit 2, que soient corrigées uniquement les erreurs manifestes. Ce que dit l'IFAB, le board qui gère l'acte de l'arbitrage, dit c'est obvious mistake, ou je sais plus le terme.
Prenons un exemple concret ce week-end. L'égalisation de Bordeaux contre Lyon avec un hors-jeu qui se joue à un bout de maillot.
Au moment où tu le vois. La définition ne veut rien dire.
Sur le hors-jeu, toutes les polémique qu'il y a eu en Angleterre pendant le Boxing Day. Donc le but de Koscielny, il est hors jeu, je crois, de 15 ou 25 centimètres, il est hors jeu.
Ouais.
Voilà, c'est
donc,
clairement.
La définition ne veut rien dire.
C'est clairement. Non, la définition sur le hors jeu. Non, Daniel, il y a deux choses. Sur le hors jeu, il y a pas de discussion puisqu'il y a maintenant le révélateur 3D qui dit au centimètre près si le gars est hors jeu ou pas. Par contre, sur des actions de type penalty, main, diminution du corporel, etc.
Ça reste à l'interprétation. Vous parlez du nombre de fréquences d'images. d'images secondes qui est pas forcément un révélateur précis.
Et du moment précis où le ballon quitte le pied.
Précis, non, mais cette règle, de toute façon, elle va évoluer, cette règle. Il y a eu trop de discussions et je pense qu'ils
ce qui est important maintenant, c'est que le confort. Vous savez, vous pouvez ici taper sur la VAR chaque soir. On reviendra pas en arrière.
On a compris.
J'en suis pas sûr.
Donc, moi j'en suis sûr. Non. Donc, attendez, je voudrais finir, Gilbert. Par contre, il y a une chose. Il faut pas être dogmatique. Il y a une chose qui doit être améliorée, c'est la compréhension, la pédagogie, le confort du spectateur dans le stade et du téléspectateur. Ouais, il faut donc que ça aille plus vite. Beaucoup plus vite qu'aujourd'hui,
et
il faut que la VAR n'intervienne, et je pense que et Pascal Garibian et surtout Noël Le Graët qui s'est exprimé sur le sujet n'interviennent que lorsque c'est pour corriger une erreur manifeste.
Mais dans ce sens-là, il faut clarifier également les modes d'utilisation. C'est ça qui est problématique, c'est ça qui nous pose un vrai problème, et le hors-jeu en est un manifeste.
Le problème, c'est que c'est l'incompréhension que vous avez de l'erreur manifeste, en fait. Mais vous n'êtes pas le seul, Monsieur Garibian non plus, il ne veut pas le comprendre. En fait, vous nous reprochez d'être dogmatique alors que c'est vous qui êtes.
Non, c'est moi. J'ai dit qu'il ne faut pas être dogmatique en parlant de moi. Ah, j'ai dit qu'il ne faut pas être dogmatique en disant. Quand je dis on ne reviendra pas en arrière, je ne voudrais pas ensuite être accusé de dogmatisme. Je dis néanmoins, dans l'utilisation qui est faite, en particulier pour les acteurs du jeu en premier, les joueurs, et aussi les spectateurs, et aussi les téléspectateurs, il faut améliorer la façon de le faire, il faut améliorer la pédagogie, il faut accélérer, mais si vous voulez me faire dire que est-ce que je crois qu'on reviendra en arrière, je ne crois pas. Par contre, il faut qu'on s'améliore. Vous avez été vous-même, je pense, visiter le Replay Center avec Garibian. Vous pouvez pas non plus ne pas admettre que 75% des erreurs ont été corrigées.
Alors après, vous expliquez pourquoi c'est bidon ce chiffre ? Je lui ai dit, Garibian, je peux bien vous le dire à vous. Hein. Vous savez pourquoi c'est bidon ?
Ah mais là,
comment on peut dire que 70% des erreurs sont corrigées ? Encore faudrait-il savoir que ce qui a été corrigé n'aurait pas pu être vu par un arbitre en pleine responsabilité. Oui, mais on nous balance des chiffres, mais on nous prend pour des gogos.
Mais non.
Le problème, c'est qu'on nous prend pour des crétins. Alors moi, je veux bien qu'on balance des chiffres pour le public en se disant, bon, mais ils sont tellement cons qu'ils vont pas comprendre. Mais si on réfléchit deux secondes, quand Monsieur Garibian face à moi déjà me parle d'erreur manifeste, que je lui demande une définition qu'il est incapable de me la donner, parce que erreur manifeste aux yeux de qui ? Il m'a dit aux yeux de tous. J'ai dit, mais qui est tous ? On a le même regard, on a le même sentiment, on voit les choses de la même façon. Mais dans quel monde, à part dans un monde de robots, ça marche comme ça. Bref, passons sur ce point. Il me dit les 70%, 75 erreurs corrigées. À l'époque, c'est 70. Visiblement, maintenant, on est monté à 75. Mais c'est si on considère que l'arbitre de lui-même aurait arbitré différemment, mais on ne le sait pas. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, souvent, ils interviennent a posteriori. Donc ce chiffre ne veut rien dire.
Ce que vous pensez, Daniel, n'est pas ce que pense la majorité des Français fans de football.
Ah bah, non, mais c'est surtout pas les arbitres. C'est ça l'essentiel.
Jérôme.
L'essentiel, les arbitres, ils ont besoin de cette utilisation, de cet outil-là. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, après.
Bon, Daniel, c'est d'avoir raison avant tout le monde. Hein.
Non mais
le reste, je m'en fous.
Daniel, t'es braqué sur le VAR depuis le début. De toute façon, alors il y a des choses qui donnent raison, il y a d'autres choses qui ne donnent pas.
Plus que tous les gens qui l'ont mis en avant.
Mais presque non, parce que moi. J'ai été joueur et comme je t'ai dit plusieurs fois, j'aurais aimé qu'il y ait le VAR à une certaine époque sur des erreurs.
Des vraies erreurs manifestes.
Oui, qui nous ont coûté des victoires ou des matchs
donc,
nuls.
Des erreurs manifestes.
Donc,
le 20 cm d'hors-jeu.
Ou le 2 cm. En fait, on le saura jamais, mais Didier a raison. Ce que je veux dire, quand il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Après, il faut aussi faire confiance à l'arbitre et je pense que l'amélioration de ce hors-jeu à quelques centimètres près, il faut avant tout faire confiance à l'arbitre en direct. Ça veut dire que si l'arbitre il juge qu'il n'y a pas hors-jeu.
Ok, Jérôme.
Eh ben oui.
Non, mais d'accord. Mais par rapport à votre majorité qui était évoquée il y a deux secondes sur le fait que je ne pense pas comme la majorité, je trouve qu'en un an et demi maintenant, il y a eu un nombre de revirements qui est très surprenant pour une telle révolution.
Daniel,
très étonnant. Le nombre de gens dans les acteurs du foot, dans les entraîneurs, en Angleterre, partout en Europe, en France, le nombre de gens qui sont déjà dans le doute ou qui ont basculé, trouve qu'en un an et demi, c'est énormissime.
Mais ils sont dans le doute, mais il faut changer l'amélioration. Il faut améliorer des choses.
Je ne m'attendais pas à ça.
Allez, on conclut avec Didier Kio.
Ah non, mais là, on peut débattre
c'est pour ça qu'on,
jusqu'à minuit. Le revirement, ça sera lorsqu'une ligue ou l'UEFA décidera d'arrêter la VAR dans une de ses compétitions. Eh ben,
ça n'arrivera pas.
Ben, je pense que nous, on sera tous les quatre à la retraite ce jour-là.
Dans quelques instants, on est de retour pour parler cette fois des problèmes dans les tribunes. Parce que c'est aussi.
On va peut-être être d'accord sur ce sujet, ça.
Ça va être dur ce soir
de parvenir à un accord sur le sujet.
Les tribunes. Ah ben non, on ne serait pas d'accord avec Jérôme, dans les fumigènes. On va en parler dans quelques instants.
Là, maintenant, c'est moi qui vais me braquer.
Didier Kio avec nous encore pendant quelques minutes. Appelez-nous, hein, 32-16 sur tous les sujets, n'hésitez pas à le faire. On vous accueille dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, ils sont là jusqu'à minuit. Tout à l'heure, on parlera arbitrage avec Bruno Derrien. Le but de Slimani était-il valable dimanche soir? Entre autres, mais pour l'instant, Didier Quillot, toujours avec nous, directeur général de la Ligue, qui organise, je le rappelle, évidemment, notre football professionnel. Oui, d'ailleurs, ça permet de rappeler à tous les supporters ultras qui n'arrêtent pas de... envoyer des mots, des gentils mots doux à la Ligue, que les interdictions de déplacement, c'est pas la Ligue. Hein. Je le répète une nouvelle fois, on le répète régulièrement dans l'after, mais à chaque fois, on dit « Ouais, la Ligue, on t'adore !» Mais c'est pas la Ligue. Voilà, ce sont les préfectures, je le rappelle.
On l'a dit très souvent.
Oui, mais bon, ça arrive encore fréquemment. Tiens, la petite interview du jour, c'est Thomas Tourelle. Il n'est pas content, Didier Thomas, Thomas Tourelle, de l'horaire des matchs. Parce que lui, 21h, ça ne lui plaît pas, parce que les enfants ne peuvent pas aller au stade, on écoute.
Beaucoup de jeunes supporters dans l'école de mes filles qui ne peuvent pas regarder des matchs de Paris Saint-Germain. Et ils sont grands supporters. Ils regardent jamais un match. Jamais, parce que c'est pas possible. Ils doivent dormir parce que c'est l'école. Et on joue dimanche et mercredi, on joue toujours entre 9 et 11 heures. Et après, je connais les gars, je dois dire oui, on a gagné, c'était un bon match. Mais il doit regarder des choses. Non, mais je suis sérieux, c'est le match pour des enfants.
Voilà, le foot c'est pour les enfants, il veut changer les horaires.
Alors, le PSG vient de jouer deux fois de suite à 21h, mais il faut rappeler à Thomas Tourelle que le PSG joue à peu près une fois sur deux à 21h et une fois sur deux à 17h30, et donc pas tout le temps à 21h, premier point. Deuxième point, ça fait 36 ans en France que le match tête d'affiche est à 21h. Je pense pas que ça va changer, en tout cas pour les quatre prochaines années, ça ne changera pas. Je rappelle qu'en Espagne, les classicos, ils ont parfois lieu à 12h30, parfois lieu à 22h30. Donc il y a des spécificités culturelles au pays qui sont la France, l'Espagne, différentes de ce qui se passe en Allemagne. Thomas Tourelle est un excellent entraîneur allemand qui pratique son métier en France.
Voilà,
bien répondu.
Il n'aura pas les matchs à 15h30 comme un Bundesliga.
Je suis totalement d'accord avec ce que dit Didier. Ce que je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas critiquer les horaires. T'arrives en France, tu te fais à l'habitude du pays. Ah, je sais pas, c'est comme ça. Il s'est forcé à parler français au départ, et tout à son honneur. Il parle très bien le français.
Ah, il en a marre de faire les débriefs dans la cour d'école le lendemain matin aux amis de ses enfants.
Le problème, c'est que tu peux pas remettre en cause. Voilà, il y a un championnat. Déjà, il va changer l'année prochaine parce que il va y avoir des matchs à 15h.
Alors effectivement, là où Thomas Tourelle a raison, c'est que, et c'est aussi une volonté qu'on partage, qu'il y ait davantage de familles et d'enfants qui aillent au stade. C'est la raison pour laquelle, à partir de la saison prochaine, les matchs du samedi soir 20h auront lieu le dimanche à 15h. Parce qu'on considère que c'est un bel horaire pour aller en famille au stade, après le déjeuner de famille du dimanche, aller au stade en famille à 15h avec ses enfants. Donc ça sera pour les matchs du multiplex. Et effectivement, ça sera rarement le Paris Saint-Germain qui continuera, lui, à jouer
c'est sûr.
Une fois sur deux le dimanche soir.
Maintenant, il a le droit de trouver que, en Angleterre, souvent les grands affiches sont le samedi
18h30. Non, mais en Angleterre, mais en Allemagne...
Il a le droit de trouver que c'est mieux. Hein.
En Allemagne, c'est pareil.
Ouais, mais il a le droit de trouver que c'est mieux, c'est pas un problème.
Mais dans ces cas-là, il vient pas entraîner en France. Il sait que ça se passe comme ça.
Bon, dossier suivant, ça changera pas de façon.
Comme c'est un étranger, il faut qu'il ferme sa gueule. Je comprends pas l'idée.
Non, écoute-moi.
Il peut donner son avis ou pas quand même.
Pour moi,
il a le droit de donner son avis.
Pour moi, là-dessus, c'est.
Il peut donner son avis à l'entraîneur.
On s'en fout. Pourquoi Thomas, le grand Thomas Tourelle, doit changer à lui tout seul les horaires des matchs.
Il donne son avis.
Eh ben, c'est une connerie. Il donne son avis. Ça fait 36 ans. Didier te le dit. Pourquoi il est pas au courant? Alors donc lui, la 37e année, il doit changer.
C'est Thomas Tourelle.
S'il te plaît, c'est fini.
On redescend.
Il a le droit de donner son avis.
Les tribunes.
Un étranger, ça doit fermer sa gueule. Alors.
Écoute, tu dois te faire à la culture du pays, c'est tout. Jérôme. Mais tu dois le faire à la culture du pays. Toi, en Italie, les matchs, ils sont à 15h. Qu'est-ce qu'on va pas leur demander de jouer à 21h.
Oui,
déjà.
Dossier,
le multiplex, il est
dossier bouclé. Les tribunes. Bon, Saint-Etienne est le problème le plus récent avec le fameux match à huis clos. Est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire à trouver entre un match à huis clos total est-ce que le barème de sanctions est le bon? Je veux dire, aujourd'hui là, on pénalise, nous on a beaucoup de supporters des Verts qui nous appellent, qui disent oui, mais moi je suis en tribune latérale, je suis abonné, je suis pénalisé à cause de mecs que je connais même pas qui font un feu d'artifice, et moi-même je le déplore, qui suis un supporter des Verts. Est-ce que c'est pas trop aller trop loin que de mettre des sanctions comme le huis clos total, comme c'était le cas à Saint-Etienne, Didier Quillot?
Alors d'abord, je veux rappeler que en France, il y a une loi qui interdit les fumigènes et la pyrotechnie dans les stades. Je rappelle qu'un feu d'artifice.
Même si aujourd'hui, il y a une ouverture. Hein.
Je vais y venir. Il y a une loi qui interdit la pyrotechnie dans les stades. Je rappelle qu'au match Saint-Etienne-PSG dont on parlait, il y a quand même des fusées qui ont touché le stadium et qui sont retombées sur les gars à côté. Hein. Bon, donc là, nous, on est là pour faire appliquer la loi et garantir la sécurité des gens qui vont au stade. Et donc là-dessus, il n'y aura pas de tolérance que personne n'attende la moindre tolérance par rapport aux fumigènes. Par contre, nous sommes prêts à faire des expérimentations de fumigènes encadrés, comme ça a été fait à l'occasion du centenaire du SCO d'Angers, le match Angers-Monaco. Je vous invite à regarder les images. Donc, où à l'entrée des joueurs sur le terrain, il y avait une dizaine de personnes qui portaient des fumigènes en pied de tribune. Et parce qu'effectivement, on considère que ça fait partie de l'animation avant que le match commence. Donc, quand c'est dans des conditions encadrées comme cela, nous n'y sommes pas opposés du tout. Par contre, de manière non encadrée et un petit peu sauvage pour défier, entre guillemets, comme c'est fait aujourd'hui, non, nous faisons appliquer la loi. Point. Nous faisons appliquer la loi.
Et à Marseille, quand il y a eu l'anniversaire, là, c'était quoi dernièrement, là, il y a eu Marseille, oui, là, qui a fêté. Voilà, c'était encadré ou pas?
Non.
Non, c'était pas encadré. Il y a eu deux expériences, une à Angers pour Angers-Monaco et une au Havre.
Et à Marseille, il y a eu des sanctions?
Bien sûr qu'il y a eu des sanctions.
Il n'y a pas eu de huis clos.
Il y a eu un huis clos avec sursis de mémoire. Il y a eu un huis clos avec sursis.
Non, mais
parce qu'à Saint-Etienne, il y a eu 250 fumigènes, un feu d'artifice lancé. Donc, pour répondre à votre question, donc c'est juste pas possible.
Et sur le barème de sanctions?
Non, mais sur le barème de sanctions, les sanctions collectives, c'est un outil dans l'arsenal réglementaire qui est à notre disposition. Objectivement, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais c'est pour aider les clubs dans le travail qu'ils doivent faire. Il y a des clubs qui sont parvenus. Il y a la loi L'Arrivée qui a été votée il y a quelques années qui permet d'aller déposer une plainte chez le procureur pour faire interdire de stade quelqu'un qui se comporte mal.
Donc la commission de discipline ne fait pas de zèle, comme le disent tous les groupes de supporters.
La commission de discipline ne fait pas de zèle. Je lis les réseaux sociaux comme tout le monde et on dit il n'y a pas de sanction collective en Allemagne. Bah oui, il n'y a pas de fumigène. Il n'y a pas de sanction
collective. Il y en a en Allemagne, Didier.
Il n'y a pas de sanction collective en Angleterre. Il n'y a pas de fumigène en Angleterre.
Le problème, en fait, on en revient. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. On en revient au même truc, même raisonnement que pour les pelouses tout à l'heure. Qu'on en arrive à un huis clos, je trouve ça mais tellement absurde de voir le match, le Saint-Etienne-Nantes. Ça fait crever la Ligue 1. C'est horrible pour l'image de la Ligue 1 que vous défendez. Comment est-ce possible que les clubs, j'en reviens quand je parlais des pelouses, c'est le professionnalisme de nos dirigeants de faire en sorte de mettre dehors en identifiant celui qui ne respecte pas la loi. Mais c'est pas à vous d'aller faire la police, logiquement. Donc, et en plus, c'est pas vous la commission, donc c'est pas vous qui la prenez, la sanction. Mais ça retombe sur vous quand on critique ensuite les banderoles, machin, la ligue. Donc, c'est vous qui apparaissez qui endossez le costume du grand méchant loup. Dire, c'est à cause de Quillot s'il y a un huis clos. J'en reviens.
Enfin, les gens disent plus c'est à cause de la commission de discipline.
Ouais, mais j'en reviens au problème de base. Non. C'est à cause des dirigeants de nos clubs français qui ne sont pas foutus de bien gérer leur stade, d'identifier le fauteur de trouble et de le mettre dehors, ou de dialoguer avec ses supporters, ou de trouver une solution
parce qu'on leur laisse pas l'occasion.
On doit éviter un huis clos parce que c'est.
Mais les choses ont évolué, Daniel.
On doit éviter la.
On en a parlé. Les référents supporters, ça évolue positivement.
Gilbert a raison. Enfin, vous avez raison.
J'espère.
Tous les deux. Il y a des référents supporters. Enfin, je prendrai l'exemple de Nice qui il y a quelques années. Alors, j'espère que je vais pas maintenant. Des fumigènes à Nice pour le prochain match, mais il y avait beaucoup de fumigènes. Le club a travaillé avec les associations de supporters, avec le référent supporter. Je pense qu'il y a des clubs qui sont parvenus. Donc, c'est vrai qu'il y a, enfin, aujourd'hui, il y a trois clubs, on ne va pas les nommer, qui représentent donc, je crois, 50-60% des fumigènes qui ont été craqués en début de saison. Ouais. Donc, là aussi, le
problème. Mais comment
c'est un conflit ouvert avec la direction?
Non, mais il faut, il y a des particularités, là, club par club, mais une fois de plus, moi, je veux pas du tout apparaître comme le grand méchant, comme vous dites, Daniel. Il y a une loi. Et puis, oui, c'est dangereux. Et puis, un fumigène, ça brûle à 1700 degrés.
Pourquoi on se sert de certaines ambiances avec des fumigènes pour vendre la Ligue 1, pour dire c'est magnifique, le spectacle en tribune et tout ça. Enfin, parce que c'est la vérité, c'est Didier, c'est ce qui se passe.
C'est pas nous, Jérôme, qui faisons de la pub sur nos sites avec des fumigènes. On n'est pas quand même complètement ambivalent.
Non, oui, mais donc on s'en sert quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir
c'est juste pour ça,
milieu,
d'ailleurs, mais... Daniel, Jérôme, pardon, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai dit, nous ne sommes pas opposés à des expérimentations mais ça, de c'est fumigènes bien encadrées. Je vous invite à regarder les images du match Angers-Monaco pendant une minute, pense que voire plus. Il y avait des très beaux fumigènes à l'entrée des joueurs. C'était encadré avec des stadiers et tout ce qui est la beauté esthétique, comme vous dites, du truc, elle était là, mais bon, de manière encadrée et non dangereuse parce que les gars étaient devant la tribune.
Et le huis clos, on est d'accord, c'est une catastrophe pour l'image.
C'est une catastrophe pour l'image.
Sur les fumigènes, les trois clubs, c'est Nantes, Marseille et Saint-Etienne.
C'est une catastrophe, ouais. Mais
pourquoi on continue avec ces huis clos? Parce que moi,
on conclura là-dessus.
J'ai l'impression.
Répondu, hein,
mais non, mais parce que, attends, ça fait des années.
Quand vous brûlez un feu rouge, c'est 4 points sur le permis.
Ouais.
Ok. Mais pourquoi on continue à enlever 4 points? Pour que les mecs arrêtent de brûler les feux rouges.
Donc on sanctionne tout un stade et on sanctionne les joueurs, on sanctionne le spectacle.
Mais c'est souvent, mais si, ça vient,
parce que c'est la vérité, parce que c'est ça en fait. Parce que à Saint-Etienne, là, tu m'expliques et je comprends qu'il y a eu feu d'artifice, que c'était dangereux pour les autres tribunes qui se sont balancées entre tribune du Paris Saint-Germain et tribune de Saint-Etienne, des fumigènes, des fusées. Ok, pas de problème. Mais pourquoi les tribunes latérales, la tribune d'en face, ils ont rien fait? Pourquoi eux sont sanctionnés maintenant? Les joueurs, parce que moi je me mets à la place des joueurs.
Ça, c'est sûr, c'est terrible ça.
J'ai vécu ces matchs. C'est un anti-football. C'est les personnes qui mettent ces matchs à huis clos, ils ne connaissent rien au football. Du moins à ce que un joueur attend d'un match de football. Un joueur, il attend déjà de battre son adversaire et de gagner le match, d'accord, mais aussi de jouer devant des gens qui vont les motiver, qui vont.
Quand on enlève les tribunes où il y a de l'animation, souvent après ça ressemble à une forme de huis clos.
Pas totalement.
Il faudrait arriver à sortir de ça, quoi, de ce conflit ouvert qu'ont certains supporters.
On pourrait discuter pendant 3 heures avec Didier Quillot, mais là on arrive au bout. Merci d'être venu, d'être venu un peu sur le ring de l'after, parce que c'est un peu ça. Mais au final, on se quitte toujours bons amis, hein, c'est l'essentiel.
Merci à vous.
Merci. Oui, on me dit c'est un octogone, pas un octogone. Wow. Ouais, c'est pas tout à fait un rond notre table.
Ouais, donc, il y a le sens de la mesure.
Ouais, tout de suite, t'as vu un peu. Merci en tout cas.
À bientôt.
Et nous, on continue de parler de Ligue 1, évidemment, tous les soirs dans l'after. Et on va réagir au 32-16 sur tous ces sujets, parce qu'on a reçu beaucoup d'appels. Mais on voulait vraiment balayer tous les sujets avec Didier. Donc, on continue le débat sans Didier Quillot dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC, 21h minuit. L'afterfoot.
At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
How read Stan? Will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Oh. Oh. Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.